À l'heure où on embrayonne lentement une forme de monarchie constitutive, constitutionnelle plutôt, outre-Manche, deux camps s'affrontent. Celui des puritains, mené par Olivier Cromwell, et celui des royalistes, conduit par les Stuarts. C'est dans le cadre de cette opposition que se développe l'intrigue des Puritani de Bellini, qui verra le jour au Théâtre italien de Paris en 1835. En un mot, un jeune couple, alors même que le mariage devient possible, enfin, est ballotté entre allégeance politique, amour et folie dans une Angleterre en guerre civile.
Oh!
un premier numéro de ces puritains pour nous mettre dans l'ambiance. Ah, per sempre io ti perdei. Simon Kinleyside dans le rôle du pauvre Ricardo Delessé, accompagné par le Philharmonique de Munich, dirigé par Ulf Schirmer. Oui, Ricardo a de quoi faire une moue de déception, parce qu'il devait se marier, et puis finalement plus. Les puritains de Bellini s'ouvrent sur une vaste esplanade de la forteresse de Plymouth, vers 1650. Nous sommes chez Lord Walter Walton, partisan de Cromwell, le chef des puritains. Le soleil se lève sur un jour de bataille. Et que se passe-t-il les jours de bataille? Eh bien, on chante. Précisément, on chante la gloire du Créateur. Alors, je ne sais pas si ça fait écho à vos souvenirs de colonies de vacances, mais au XVIIe, c'est comme ça qu'on fait, voilà. Quand la trompette sonne, aussitôt le guerrier se dresse. Tatatin, il apprête ses armes terribles et court à la victoire. Seulement, on se rappelle que Ricardo n'est pas d'humeur. La fille de Lord Walter, Elvira, devait se marier avec lui. Or, de retour des combats où, franchement, il s'est bien battu pour les puritains, il a appris du même Lord Walter que l'Elvira, eh ben, elle voulait en fait se marier avec un autre, Lord Arthur Talbot. On peut s'étonner de la modernité de l'éducation de ce père qui, contre toute attente, cède sa raison au sentiment de sa fille. Il dit « Sur un cœur, un père n'a pas d'empire ». Des deux magnifiques allitérations, il faut leur dire, sur un cœur, un père n'a pas d'empire. Ça, c'est extraordinaire, c'est beau. Là où on s'étonne encore plus, c'est qu'Arthur Talbot, eh ben, il est royaliste. La droite dure. Dans une famille, alors, pas de gauche, mais déjà un peu plus ou un peu moins de droite. Ricardo en a alors gros sur la patate. Tout à l'heure, il chantait pour nous « Je t'ai perdu à jamais, sans espoir ni amour, dans cette vie que me reste-t-il » Et son pote Bruno, eh ben, il lui faisait une petite tape dans le dos. Il lui disait que bon, la semaine suivante, il allait être en cours de répète, ça lui ferait du bien de poncer au drapeau et de tirer des obus dans la montagne, etc. Comme ça ne marche que peu, Bruno le secoue encore et fait de la poésie. Il dit « Laisse dans l'oubli le temps qui fleurissait d'espérance et d'amour. » En gros, laisse tomber. Le chant d'amour de Ricardo et les conseils de Bruno, c'est Vladimir Tchernov et Mario Bolognesi qui nous les donnent.
Che fioriva di
Le cœur transi d'amour de Ricardo et les conseils avisés de Bruno, Vladimir Tchernov et Mario Bolognesi dans ses rôles respectifs, accompagnés par l'orchestre du théâtre Massimo Bellini de Catania, sous la direction de Gustav Kuhn. Cette séquence opéra est à découvrir tous les soirs à 18h dans Bazar, avec cette semaine Les Puritains de Vincenzo Bellini. Bazar sur RTS Espace 2, c'est aussi sur l'application Play RTS. Bonsoir à vous. Une galliarde pour ensemble instrumental de Johann Hermann Schein, un des trois S, Scheit, Schein et Schütz, par l'ensemble d'Oulse Mémoire avant de plonger dans une tempête beethovenienne pour laquelle il va falloir faire deux choses, chers auditeurs, chères auditrices. D'abord, bien arrimer votre couvre-chef, si vous en portez un, sinon il va falloir tenir les cheveux. Et puis également faire preuve de beaucoup d'attention pour le jeu pianistique d'Andras Schiff qui, dans les moments de calme, effleure littéralement les touches pour nous proposer des contrastes sonores absolument magnifiques.
Thank you.
Ainsi s'achève le premier mouvement de la 17e sonate pour piano de Ludwig van Beethoven, celle qu'on appelle la Tempête, sous les doigts de Andras Schiff, un enregistrement qui est paru en 2007. Alors vous savez, il y a un immense lieu commun, ridiculissime, qu'il faut systématiquement sortir quand on parle de tempête, c'est le calme avant la tempête. On dit c'est le calme avant la tempête. Bon, là la tempête a déjà eu lieu, ce qui fait qu'on peut pas utiliser cette expression, mais on peut dire le calme après la tempête. D'une part, ce sera un peu subversif, d'autre part, ça servira la programmation. Parce qu'en effet, c'est le moment de vous offrir quelque chose de très doux, de très calme, une voix magnifique, celle d'Andrea Motis dans « Sense Pressa ». la voix et la trompette d'Andrea Motis dans Sense Pressa. Bazar sur RTS Espace 2, et chaque lundi à 18h, je vous propose d'orge et d'orja, comme disait un ami meunier à moi, une courte plongée en apnée dans des écrits de compositeurs. Mais attention, il ne s'agit pas de beaux chapitres immaculés, finis au subjonctif plus que parfait. On va feuilleter des pages cornées, gondolées et qui collent entre elles, because les taches de café et autres fluides, c'est les gros textes de la musique.
Enfin, c'est grotesque.
Ouais, c'est pas faux.
Et alors ?
C'est cela, la littérature.
On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature.
Nous sommes dans l'intimité de la correspondance de Mozart. Attaché à sa cousine Tecla, avec qui il aimait bien échanger quelques truculentes légèretés, il lui écrit ici un genre de blague de stand-up qu'il faut vraiment avoir la patience d'écouter et qui montre que Mozart savait tout autant charger la mule à l'écrit en faisant des détours de 12 000 km que produire une musique transparente et organisée. Mannheim, le 28 février 1778. Mademoiselle, ma très chère cousine, vous allez peut-être croire, ou même penser, que je suis mort, que j'ai péri, ou suis crevé. Mais non, n'y pensez pas, je vous en prie. Car croire ou aller à celle sont deux choses tout à fait différentes. Comment pourrais-je si joliment écrire si j'étais mort ? Comment cela serait-il donc possible ? Je ne veux pas m'excuser pour mon si long silence, car vous ne me croiriez nullement. Et pourtant, ce qui est vrai est vrai. J'ai eu tant à faire que j'avais certes le temps de penser à ma petite cousine, mais pas celui de lui écrire, et donc dû m'en abstenir. J'ai maintenant l'honneur de vous demander comment vous allez et vous portez. Si vous n'êtes pas constipé, ou si vous avez la teigne, si vous m'aimez encore un petit peu. Si vous écrivez souvent à la craie, si vous vous souvenez de moi de temps à autre, si par hasard vous avez été fâché contre moi, pauvre fou, si vous ne voulez pas faire la paix de bonne grâce, sinon sur mon humeur, je lâche une caisse. Mais enfin, oui, passons à autre chose, car je dois bientôt terminer, parce que je suis pressé, n'ayant justement vraiment rien à faire, et puis parce que je n'ai plus de place, comme vous le voyez. Le papier tire à sa fin, et aussi, je suis fatigué, les doigts me brûlent à force d'écrire. Et finalement, même si j'avais assez de place, je ne saurais que vous écrire encore, si ce n'est la Geschichte que j'ai l'intention de vous raconter. Écoutez donc, il n'y a pas si longtemps que cela s'est passé, ici, dans ce pays. Ça fait d'ailleurs très grand bruit, parce que ça semblait parfaitement possible. On ignore d'ailleurs, ceci entre nous, l'issue de l'affaire. Donc bref, il y avait, à environ 4 heures d'ici, je ne sais plus, l'endroit, il y avait un village ou quelque chose de ce genre. D'ailleurs, c'est la même chose que ce soit passé à Tripstril, où la fange coule dans la mer, ou à Wurmanskvik, où on a le trou de balle de travers. En un mot, il était une fois un lieu. Il s'y trouvait un berger, ou un pastoureau, qui était déjà assez vieux mais semblait encore robuste et fort. Il n'était pas marié, avait du bien et jouissait de la vie. Ah oui, avant de finir de raconter l'histoire, je dois tout d'abord vous dire qu'il avait une voix effrayante. On avait toujours peur en l'entendant parler. Alors, pour en venir brièvement au sujet, il faut que vous sachiez qu'il avait un chien qu'il nommait Pupus. Un très beau, grand chien blanc avec des taches noires. Bien. Un jour, il se promenait avec ses moutons. Il en avait 11 000. Il tenait à la main un bâton avec un joli ruban de couleur rose. Car il n'allait jamais sans bâton. C'était une sorte de coutume. Continuons. Alors qu'il marchait depuis une bonne heure, il se sentit fatigué et s'assit auprès d'un fleuve. Finalement, il s'endormit et rêva qu'il avait perdu ses moutons. Effrayé, il se réveilla, mais vit à sa grande joie tous ses moutons. Enfin, il se leva et continua son chemin, mais pas longtemps. Car à peine une demi-heure s'était écoulée qu'il arriva à un pont très long, mais alors bien protégé sur les deux côtés, de sorte qu'on ne pouvait pas en tomber. Alors il regarda son troupeau, et comme il devait passer de l'autre côté, il commença à y pousser ses 11 000 moutons. Ayez maintenant la bienveillance d'attendre que les 11 000 moutons soient passés de l'autre côté. J'espère toutefois que d'ici ma prochaine lettre, ils seront passés. Adieu, cousine. Je suis, j'étais, je serai, j'ai été, j'avais été, j'aurais été. Oh, si j'étais, oh, que je sois plus adieu que je fusse. Je serai, si je pouvais être. Oh, que je fusse, j'eusse été, j'aurais été. Oh, si j'avais été, oh, que j'eusse été. Plus adieu que j'eusse été qui ? Un nigaud. Wolfgang Amadé Mozart. Thank you. L'ouverture du Roi Pasteur, un opéra aux trois actes de Wolfgang Amadeus Mozart, interprété par Sir Colin Davis et l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde.
Thank you.
Albrecht Mayr au hautbois dans un air transcrit pour son instrument de Jean-Sébastien Bach, Schaffe können sicher weiden, avec l'accompagnement du Sinfonia de Varsovie. Alors pourquoi de la musique protestante, virgule luthérienne? Eh bien, d'une part parce que c'est beau, et ensuite parce que il fallait bien équilibrer avant de passer un répertoire un peu plus graveleux, qui descend, il faut le dire, sous la ceinture. Percy Grainger a repris une chanson traditionnelle anglophone, I'm 17 come Sunday, c'est-à-dire j'aurai 17 ans ce dimanche. Alors c'est une question que pose un jeune homme à une jeune fille, on imagine le reste.
One May morning, so early, I overtook a pretty fair maid. Just as the sun was dawning, bid me rue and pray. Father diddley, what folly did I do? Her stockings white and her boots were bright, and her buckling shone like silver. She had a dog and a rolling knife, and the hair hung round her shoulder. Bid me rue and pray. Father diddley, what folly did I do? Where are you going, my pretty fair maid? Where are you going, my honey? She answered me right cheerfully. I'm an errand for me, now be with me, rule and pray. For the diddle day, what for the diddle I know? How old are you, my pretty fair maid? How old are you, my honey? She answered me right cheerfully. I'm 17, come Sunday, with me, rule and pray. For the diddle day, what for the
I'm 17 come Sunday, c'est une mélodie pour chœur et orchestre, du moins dans cette transcription que propose Percy Grainger. Il existe aussi une autre version, celle-ci par Ralph Vaughan Williams dans ses English Folk Songs. Nous avions des cuivres du English Chamber Orchestra de Londres, oui, que cuivre à percussion, pour accompagner les voix de l'Ambrosian Opera Chorus de Londres. Thank you. Un moment d'introspection pianistique offert par Ludovico Einaudi. Monday, pour dire lundi, pour dire le premier jour d'une semaine, le premier jour de 7 jours, ou le premier jour d'une rentrée scolaire pour un enfant de 4 ans sur Fribourg, la deuxième semaine d'un enfant roman d'ailleurs, et puis peut-être aussi la rentrée d'une prof ou d'un prof, la rentrée d'un parent, la rentrée au travail, le début en somme, et la fin. Oui, le lundi, c'est aussi la fin du week-end, et la fin de journée du lundi, c'est la fin de la fin, fine in fine. C'est ce moment où on arrive, le cœur sans doute un peu vide, et la paupière un peu lourde, et qu'on se demande quand ça va reprendre, ou encore quand ça va s'arrêter. Il y a un truc qui continue en tout cas, c'est Sans Introspection, Bazar sur RTS Espace 2 jusqu'à 19h30. Et puis là, il est grand temps de vous servir un peu de page musicale. Oui, nous allons écouter une musique anglaise qui se détache du répertoire parce qu'elle est un peu imprédictible. Il paraît que l'on propose des cours de sanskrit à certains enfants au potentiel. Alors Gustav Holst était-il HP ? C'est une question qu'on pose aux psychologues qui s'intéressent aux cas du passé. Toujours est-il que ce compositeur anglais, eh bien, s'y est mis pour mettre en musique la poésie hindoue. On va pas parler de poésie hindoue, mais on va parler de Gustav Holst, par contre, et même de Gustavus von Holst, puisque ce compositeur anglais était d'origine suédoise, né en 1874 à Cheltenham. Il était conjointement avec Frédéric Delius et Edward Elgar, l'une des figures dominantes de la musique anglaise de la première moitié du XXe siècle. Alors nous allons vous proposer quelques pages de ce compositeur. Ça ne sera pas les planètes, non évidemment, puisqu'on a envie de vous faire découvrir d'autres choses peut-être. Il s'agit d'une œuvre composée en 1927, à savoir après les planètes, et qui est tout autre. Parce que vous comprenez, le public de l'époque, après avoir été littéralement transcendé par les planètes, s'est dit « il va nous en servir une autre ». Voilà, le filon a été ouvert, il suffit de traire la vache. Eh bien non, Gustav Holst, lui, a décidé d'abandonner le bovin pour faire dans le caprin, ou l'ovin. L'ovin, hein, pas levain, il est resté dans les bêtes, il n'est pas parti dans le liquide. Quoique le lait, c'est aussi du liquide. Mais enfin bon, on ne va pas épiloguer. Egdon Heath est un roman de Thomas Hardy, Le retour de l'indigène. Egdon Heath, ça n'est pas une personne, mais c'est un lieu fictif qui est situé dans une région tout aussi fictive du Wessex, au supposé sud-ouest de l'Angleterre, où ce Thomas Hardy, eh bien, a situé toutes ses œuvres majeures. Donc, Le retour de l'indigène se déroule entièrement sur Egdon Heath. Ceci a inspiré une musique sous la forme d'un poème symphonique à Gustav Holst, une musique insaisissable et imprédictible. Alors je ne vais pas vous passer les différents extraits qui vont permettre de vous orienter dans l'écoute de cette musique, parce qu'ils vont s'aligner littéralement tout au début de la pièce, de manière assez rapprochée. Il y a trois éléments qui vont être mixés, comme en cuisine, dans la pièce, qu'on entend donc au début. Une mélodie rampante, sans pulsation, qui est d'abord donnée aux contrebasses, et puis qui se répand dans toutes les cordes. Ensuite, un genre de musique de procession chez les cuivres. On est dans un cortège funèbre. Et ensuite, une espèce de caquettement, un pépiment sans repos aux cordes et au hautbois. Alors, ces trois événements musicaux, ils se mélangent, ils communiquent, ils tissent ensemble des liens. Et puis, ils dressent un portrait de la désolation de ce paysage d'Egdon Heath. Ça dure environ 10 minutes, une petite dizaine de minutes, et cela n'a pas beaucoup stimulé, et a plutôt mis en dépression le public de l'époque. Pourquoi ? Eh bien, vous allez le voir, parce que c'est une musique qui est assez sombre tout de même, mais il s'attendait, ce public, comme je vous le disais tout à l'heure, à avoir une musique plus pétillante, qui prenait plus aux tripes, comme les planètes. Pourtant, figurez-vous